Sur Graphite, il est 8h30, c'est l'heure du journal avec Oran Loz.
Bonjour à toutes et à tous. Coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Les compétitions commencent dès 13h avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Plusieurs représentants politiques, dont celui des États-Unis, du Royaume-Uni et du Japon, ont décidé de boycotter la cérémonie pour dénoncer la violation des droits humains en Chine sur les Ouïghours. Malgré la reconnaissance d'un génocide de la communauté musulmane chinoise adoptée par l'Assemblée nationale, la ministre des Sports se rendra en Chine vendredi prochain. Les compétitions des Jeux Olympiques d'hiver seront diffusées en clair sur France 2 et Eurosport. Les étudiants de l'UTC participent au budget. L'Université de technologie de Compiègne a mis en place un budget participatif de 15 000 euros. Les étudiants ont proposé plusieurs idées qui ont ensuite été soumises au vote en ligne. Au final, une dizaine de propositions ont été retenues. Parmi elles, l'installation d'une borne pour réparer les vélos, déjà installée sur le parking du site Benjamin Franklin. Mais aussi la mise en place de cours de self-défense et la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Le collectif Extinction Rébellion veut se reformer à Compiègne. Le mouvement écologiste international, connu pour ses actions de désobéissance civile, veut s'implanter dans la cité impériale. Nous avons rencontré Maupertuis, un des militants à l'origine de la refonte du collectif. C'est vous qui avez décidé de reformer Extinction Rébellion ici à Compiègne ?
Alors, il existait un petit collectif il y a quelques années. Malheureusement, les vagues de Covid et les confinements sont passés par là et ont un peu, je vais pas dire démotivé les uns les autres, mais ça a quand même beaucoup compliqué les choses puisque la vie sociale s'est un peu arrêtée. Donc là, on a souhaité recréer quelque chose parce que ça faisait 2 ans que plus rien n'existait et on pense qu'il y a évidemment beaucoup de raisons d'être très actif sur ce sujet. Il suffit de lire l'actualité, lire les rapports du GIEC, de l'IPBES. On est nombreux à avoir des inquiétudes sur les sujets environnementaux et sur le chemin que nous prenons. Et on est aussi nombreux à vouloir agir. Donc l'idée, c'est que c'est une réunion qu'on a appelée réunion d'accueil des nouveaux et des curieux. Donc l'idée, c'est évidemment une réunion sans engagement, comme dirait un mauvais publicitaire. C'est une réunion pour que les gens qui sont intéressés par ces sujets-là viennent parler un petit peu du chemin qui les a conduits à se poser des questions, viennent parler de ce qu'ils auraient envie de faire. Et on sait que à XR, on reçoit des gens qui ont des profils très différents. Des gens qui sont militants dans la mouvance écologiste depuis très longtemps, des gens qui ont pris des claques en découvrant, en comprenant l'état du système Terre, on va dire, et l'état du vivant. On a des gens qui progressivement se sont posés des questions et qui ne savent pas comment agir ou à quel niveau agir. On a des profils extrêmement variés et il faut qu'il y ait un espace pour qu'on puisse désobéir chacun à notre manière. Donc parfois, ça va être la désobéissance civile dans la rue. Il y a beaucoup de manières de désobéir, il y a beaucoup de manières d'agir. Et l'idée, c'est qu'on ait un espace où tous ceux qui ont envie de repenser les choses et d'agir contre un système qui est aujourd'hui délétère et qui menace le vivant au sens large, puissent trouver un espace d'action, un espace de réflexion. Donc l'idée, c'est d'avoir un espace où les gens puissent parler. Il y a une sensibilité assez forte dans la région aux sujets environnementaux, soit parce qu'il y a des étudiants qui réfléchissent à ces questions, soit parce que les gens ont choisi de venir ici pour être au vert près de la forêt et qu'ils ont une sensibilité à ces questions-là. Et puis sinon, parce que quand on est à peu près intelligent, je pense qu'on se pose les mêmes questions que tous les scientifiques qui travaillent sur le sujet. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux locaux à Compiègne. C'est une ville qui est insérée dans un environnement rural et qui est une bonne taille pour réfléchir à ce que c'est que la transition. Deux, parce qu'elle a un patrimoine naturel énorme. Et puis, il y a ce sujet du grand canal Seine-Nord-Europe qui soulève beaucoup d'enjeux.
Retrouvez la réunion d'Extinction Rébellion ce soir à 19h à l'Alchimie, 25 rue de la 8e division en plein centre-ville de Compiègne. Côté culture, ce soir, les journalistes Stéphane Jourdain et Guillaume Daudin viendront dédicacer leur BD « Les contraceptés », une enquête sur la contraception masculine en France. Stéphane Jourdain nous explique comment leur est venue l'envie de réaliser cette enquête.
Avec Guillaume, on était tous les deux journalistes à l'époque, on l'est encore, et on était assez passionnés par tout ce qui se passait dans le sillon de MeToo. Et donc on discutait beaucoup de ces sujets et puis tout d'un coup Guillaume m'a parlé de la contraception masculine et on s'est vraiment dit que c'était un des champs de l'égalité homme-femme qui n'avait pas été encore labouré, exploré, et qui avait sans doute un travail d'investigation à faire là-dessus. Et on a commencé par évoquer nos souvenirs, notre absence de souvenirs en tant qu'homme hétérosexuel, ayant eu une vie intime assez longue, des moyens de contraception qu'avaient pu utiliser nos compagnes, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un angle mort et que les hommes avaient cette chance de pouvoir ne pas s'occuper de ces questions-là, et que donc il y avait une bonne raison journalistique de s'intéresser à ce sujet.
Donc les contraceptés, c'est pas une simple BD, mais c'est une véritable enquête que vous avez menée pendant 3 ans. Comment vous avez procédé exactement ?
Oui, alors c'est une espèce de pérégrination, c'est-à-dire que on a vraiment commencé, comme c'est dans la BD, par aller voir Pierre Collin, qui est un espèce d'historique de la contraception en France, qui a lancé des groupes et des tentatives assez artisanales pour se contracepter à la fin des années 70. Et donc c'est lui qui nous a un peu pris par la main en nous expliquant un peu, comme un tonton au coin du feu, la grande histoire de la contraception masculine. Et ensuite, on a été un peu partout en France pour voir des ateliers de couture, pour aller voir des médecins qui, depuis des années, conseillaient des patients en matière de contraception, puis même à l'étranger pour voir des spécialistes de la pilule masculine, par exemple. Donc voilà, c'est une sorte de pérégrination pour essayer de répondre à une question. Et la question, c'est pourquoi en 2022, il n'y a toujours pas de moyen de contraception masculine développé, facile d'accès, efficace et validé par plusieurs études scientifiques.
Et alors pourquoi, selon vous, c'est toujours pas populaire la contraception masculine ?
Alors il y a plein de raisons, hein, et ça prend des pages de répondre à cette question, mais la première raison, c'est qu'il n'y a pas de demande des hommes, il n'y a pas de demande massive des hommes pour s'occuper de ce sujet. Je pense que ça arrange tous les hommes, une grande partie des hommes, que ce soit les femmes qui subissent la charge mentale qui est liée à tous les rendez-vous chez la gynéco ou à la prise de la pilule, qui subissent tous les désagréments liés à la prise d'hormones ou à l'installation d'un stérilet, qui subissent les effets secondaires, etc., etc. Donc il n'y a pas de demande des hommes. Les politiques ne se sont jamais saisies de cette question, même la gauche sur laquelle qu'on pourrait attendre sur ce genre de sujet n'en a jamais fait part dans ses programmes jusqu'à très récemment. Et enfin, l'industrie pharmaceutique n'a jamais pensé qu'il y avait un marché qui pouvait être intéressant pour elle, et donc ne s'est jamais trop mis sur le sujet.
Et alors bon, on dit qu'elle n'est pas populaire, c'est vrai, mais elle existe quand même, la contraception masculine. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer un peu ce qui existe aujourd'hui en France ?
Oui, alors il existe différentes choses. Il existe la vasectomie, hein, qui donc consiste à couper les canaux et donc l'alimentation en sperme dans la verge, qui fonctionne très bien, qui est très rare en France. Ça concerne quelques milliers d'hommes chaque année, alors qu'elle est très très courante dans d'autres pays comme les États-Unis, où il y en a des centaines de milliers par an. Le Canada, certains pays d'Afrique, enfin il y a beaucoup de pays où on pratique beaucoup de vasectomie. En France, c'est très rare et très récent. Ensuite, il y a la méthode hormonale. Il s'agit d'injections hebdomadaires qui sont assez lourdes parce que c'est un produit qui est pas facile à trouver, qu'il faut le faire quasiment à l'heure fixe chaque semaine. Donc ça concerne très peu de gens en France, quelques dizaines tout au plus. Et puis une méthode qui se développe beaucoup, a priori, manifestement, c'est la méthode thermique, qui consiste à utiliser un anneau ou ce qu'on appelle un slip chauffant pour remonter les testicules dans le scrotum, faire monter du coup la température des testicules de 2 ou 3 degrés et du coup de couper ce qu'on appelle la spermatogénèse, la production de sperme. C'est un moyen, ce dernier moyen est très simple, il ne coûte pas d'argent ou presque pas, il n'y a pas ou très peu d'effets secondaires, c'est efficace, directement réversible, et donc de plus en plus d'hommes l'utilisent, mais pour l'instant on manque encore d'études à long terme pour savoir exactement quelles sont les conséquences de cette pratique, si on peut se contracepter comme ça pendant 10, 15 ou 20 ans. Donc pour l'instant, on navigue encore un peu à vue sur ce sujet.
Bon, finalement, au bout de 3 ans d'enquête, quelles sont les conclusions que vous tirez? Quel bilan vous pouvez donner de la contraception masculine en France?
Alors, la conclusion que je tire de toute cette enquête, c'est que la jeune génération de mecs, notamment de 20-25 ans qu'on a vus, et cette génération est très prometteuse. On a vraiment rencontré plein de types hyper enclins à vivre dans une société égalitaire entre les hommes et les femmes, très bienveillants, faisant très attention à ne pas reproduire une forme de patriarcat, de domination qui a été si puissante dans les générations avant elle. Donc voilà, ça c'est un énorme motif d'espoir, c'est de voir tous ces types qui font des ateliers de couture pour se contracepter eux-mêmes et voir à quel point ils dessinent une société qui à mon avis est meilleure pour tout le monde. Après c'est très difficile en guise de conclusion de savoir si tout ce mouvement va mettre 400 ans ou si ça va prendre une génération. C'est un peu comme l'égalité salariale homme-femme. Si on continue au rythme actuel, ça va prendre des siècles. Est-ce qu'on va réussir à trouver un espèce d'effet levier à un moment qui va permettre de régler toutes ces questions en une génération plutôt qu'en 300 ans?
Vous êtes journaliste, vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi la BD pour illustrer votre enquête et pas un reportage, par exemple?
Alors au début, on est parti sur un essai classique, un livre. Moi, j'en avais fait plusieurs sur d'autres sujets. Et puis, on s'est rendu compte au fur et à mesure que c'était assez chiant à lire en essai. Alors, on avait quand même envie de toucher du monde. On avait envie que ça suscite un peu un débat et que un maximum de gens s'approprient cette enquête. Donc, on a été conseillé par une maison d'édition qui nous a dit faites une BD. Et c'était une très bonne idée. On a rencontré une dessinatrice qui a tout de suite compris ce qu'on voulait faire. Et donc, ensuite, ça prend énormément de temps de tout mettre en BD, de tout mettre en dessin. Mais ça en valait la peine parce que je crois que vraiment, on touche beaucoup plus de gens. Et le succès de la BD aujourd'hui, qui en est à sa 4e réimpression en quelques mois, nous montre que c'était le bon format. Et ensuite, il y a quand même, sur ce sujet, il faut quand même pouvoir montrer des schémas, il faut expliquer comment ça fonctionne. Donc c'était pas mal en fait de pouvoir avoir des dessins pour le faire.
On vous retrouve ce soir à la librairie des Signes avec votre partenaire d'enquête Guillaume Daudin, ce soir à 19h. Il me semble que vous avez un lien particulier avec Compiègne.
Oui, alors en fait mes parents, mon père est originaire d'Amiens et a vécu à Montchimière, donc pas très loin de Compiègne. Et moi, c'est un endroit où je passe énormément de temps avec mes parents quand j'étais enfant, et puis maintenant tout seul avec mes amis. C'est un endroit où je viens beaucoup, donc je passe beaucoup de temps à Compiègne, une ville que je connais très bien. La librairie est vraiment magnifique. Enfin, c'est quand même une des plus belles librairies de France. Tout ça à 39 minutes de Paris. Par train, c'est quand même...
Donc vous serez aussi disponible, pas seulement pour les dédicaces, mais pour un temps d'échange, c'est ça?
Oui, bien sûr, on commence à 19h, voilà, on va dédicacer, mais l'idée c'est surtout de rencontrer les gens, de discuter de tout ça, et puis voilà, on a tout le temps, ça commence à la fermeture de la librairie, et ensuite on a tout notre temps pour discuter avec tout le monde.
Retrouvez les journalistes Stéphane Jourdain et Guillaume Daudin ce soir à 19h à la librairie des Signes à Compiègne. Ce week-end, c'est la foire aux disques à Amiens et il nous reste encore quelques places pour vous qui donnent aussi accès au salon des antiquaires. Si vous voulez gagner vos places, envoyez-nous un SMS avec vos coordonnées au 06 95 065 026. 06 95 065 026. Et on termine par la météo. De la pluie est attendue toute la journée dans l'Oise. Il fera 7 degrés ce matin et 8 cet après-midi. Retrouvez tout de suite la matinale de Brian. Il sera accompagné de Didier Caron, vice-président de l'association L'Oise Nature. Très belle journée sur Graphite.